Salut Guillaume.
Petit verre de rosé.
Ben oui, un petit verre de rosé.
Écoute, on est à Cannes.
En grande forme.
En grande forme, c'est la fin du festival, hein, doucement. Donc on voulait faire cette émission de recap en fin de festival, comme je viens de le dire, pour pouvoir reparcourir les différentes journées, quels films on a vus, quels films on n'a pas vus, enfin surtout les films qu'on a vus bien sûr, et les parcourir ensemble pour faire des micro-critiques.
Oui,
et un peu faire le best-of.
Ouais, on va pas aller trop, on va pas passer trop de temps au début parce que sinon c'est surtout moi qui vais parler, vu que tu n'étais pas là en première semaine. On va faire un petit récap rapide sur la première semaine et puis on passera peut-être un peu plus de temps sur ce début de deuxième.
Tout à fait.
Je dis début, on est jeudi, le festival prend fin dans deux jours, mais soit.
Mais on approche de la fin, maintenant on le sent déjà ici en termes de programmation, il y a quelquefois des petits trous maintenant dans l'agenda, ça commence un peu à le programme commence un peu à s'alléger, puisque le gros du festival c'était les 4-5 derniers jours, hein, avec le milieu du festival qui était assez chargé, il y avait notamment le film de Lars von Trier, il y a eu Solo qui est venu faire sa petite première, donc il y a eu tous des gros mouvements en début de semaine. Et puis forcément la semaine passée. Donc voilà, on va parcourir tout ça, on va pas faire de news, parce que il y a eu des news à gauche à droite, hein, notamment le fait que Cannes a signé un papier comme quoi en 2020 il y aurait 50-50 en termes de films masculins et féminins, donc réalisés par des femmes.
Ah, j'ai pas vu ça.
Thierry Frémaux a signé ça avant-hier. Ils ont signé un papier sur la plage comme quoi ils allaient faire en sorte qu'en 2020 ce soit 50-50 pour la répartition homme-femme.
Mais c'est un peu ridicule, non?
C'est un débat, oui. C'est un débat qui est très très chaud ces temps-ci à Cannes. On entend parler de ça tous les jours, personnellement.
Il se fait que il y a eu un petit débat cette semaine, en Belgique principalement, parce qu'un éminent critique a fait un article un peu titré de manière un peu bizarre, pour être gentil, pour ne pas dire de façon misogyne et déplorable. Mais il disait que les films de femmes, ce qui n'a pas beaucoup de sens d'ailleurs comme expression, était raté. Bah alors, j'ai pas vu les films en question, mais c'est peut-être un fait que ces films sont ratés, mais ça n'a pas de sens de qualifier ces films comme étant des films de femmes. Ce sont des films, point barre.
Trois films ne sont pas bons, voilà.
Mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut avoir un quota de films réalisés par des femmes. On sélectionne des films d'un festival parce qu'ils sont bons ou pas bons. Je ne sais pas si avoir d'office 50% de films réalisés par des femmes ait beaucoup de sens.
C'est l'idée en tout cas. C'est dans ce sens-là que le festival va. Il faut dire qu'il y a eu une grosse pression cette année avec Kate Blanchett qui était la présidente du jury, etc. Donc il y a eu 2-3 discussions. Il y a eu le moment donné où ils sont montés sur les marches ensemble avec un groupe de 80 femmes, je pense.
Quelque chose comme ça. Ouais.
Et ils vont encore refaire ça, je pense. J'avais vu l'autre jour avec 16 femmes noires. Donc 16 femmes noires qui sont montées sur le tapis. Du coup, c'était deux causants. D'une pierre deux coups.
Non, mais c'est important de parler de tous ces sujets, toutes ces problématiques, c'est pas la question, mais là vraiment, le coup du quota de films, je me pose la question.
Bon,
il y a une parité dans le jury déjà, qui n'est pas complète forcément parce que le jury est impair. Donc il y a le président ou la présidente dans ce cas-ci, et puis il y a les membres du jury, et là c'est une parité pure, donc ce qui est déjà très bien. Mais vraiment pour les films, je le répète, je ne suis absolument pas convaincu.
Oui, maintenant on a eu cette discussion ce midi d'ailleurs, le Festival de Cannes est clairement en train de réfléchir à son modèle ou comment est-ce qu'il peut évoluer, parce que c'est clair que, et ça on en avait déjà un peu parlé aussi avant, le Festival de Venise, le Festival de Toronto prennent de plus en plus de place. Et on sent bien que le Festival de Cannes est en train d'essayer un peu de voir sa programmation déjà pour attirer plus de stars, etc. C'est pour ça que notamment on a eu Solo, Le Grand Bain notamment, pour ramener plein de people français et même américains pour redonner un petit coup de glamour à Cannes, parce que c'est vrai que quand on voit la programmation, c'est pas des mauvais films jusqu'ici, j'ai jamais été déçu des films que j'ai vus. Il y en a qui sont un peu moins bons, mais de manière générale quand même c'est moyen, voire même vers le haut. C'est pas de mauvaise sélection, c'est juste qu'elle est peut-être un peu moins sexy que les années précédentes.
C'est ça.
Ils ont un peu peur que Netflix et les autres leur bouffent des parts de marché dans les années à venir. Ils ont bien raison.
Cette année, c'est sûr.
Donc voilà, rentrons dans le vif du sujet après cette petite discussion d'introduction. On va parcourir jour par jour, même si peut-être que tu n'as pas vu le film le jour même, en tout cas de sa diffusion le soir au Grand Théâtre, mais tu peux en parler au fur et à mesure. Alors le film d'ouverture, c'était Todos los Saben.
Ouais, d'Asghar Farhadi,
qui est donc une grosse ouverture en grande pompe avec notamment Penelope Cruz, Javier Bardem. Et qu'est-ce que t'en as un peu pensé de ce film, et de manière générale?
J'ai oublié Ricardo Darín.
Et Ricardo Darín, oui, qui est un de tes acteurs chouchous, c'est sa favori. Oui.
Je suis outré que tu l'aies oublié.
De tous les temps. Oui. On réenregistre.
On recommence.
On recommence. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film d'ouverture? Comment est-ce que ça a entamé le festival?
Alors, en fait, ce qui est bien, c'est que le film commence d'une certaine façon. Donc c'est le retour d'une dame qui s'appelle Laura, si je me souviens bien, parce que je retiens absolument pas les prénoms des personnages dans le film, mais j'ai bien retenu, ça va. C'est Laura, qui habite en Argentine, qui est mariée, donc, enfin, qui est donc jouée par Penélope Cruz, et dont le mari est joué par Ricardo Darín, qui est argentin. Elle revient en Espagne pour le mariage de sa sœur. Et les 40 premières minutes, c'est le retour à la maison, la famille, les retrouvailles avec la maison, avec les amis, etc., etc. Et puis, enfin, la cérémonie du mariage. Et lors de la cérémonie, il y a quelque chose qui va se passer. Sa fille va disparaître.
Oula.
Et à partir de ce moment-là, la question est de savoir qui, comment, pourquoi, enfin, comment elle a disparu, etc., etc. Le film change. Enfin, parfois, on pense que le film va dans certaines directions, et à chaque fois, Faraday, il va ailleurs. Et c'est ça qui est bien, il surprend toujours. Il lance beaucoup de fausses pistes.
Mm-hmm.
Alors, le film n'est pas un pur thriller, c'est un drame avec des éléments de thriller dedans. C'est un drame familial, c'est un drame social aussi, un peu. Mais voilà, il y a des éléments de thriller. Et Faraday lance beaucoup de pistes, des fausses pistes. Et il les désamorce en permanence. Du coup, on sait jamais trop. Ah oui, tiens, c'est peut-être ça.
Oh, okay.
Il fait réfléchir les gens, mais en fait, non, c'est pas ça, c'est peut-être autre chose. Et c'est comme ça tout le temps. Et moi, j'aime bien. Alors que je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas forcément aimé. Mais moi, justement, c'est un des éléments qui m'a plu dans le film. Donc voilà. Alors après, c'est pas le meilleur film de Faraday. Il a fait des films bien meilleurs que ça. J'ai préféré Le Passé, qui était son film français. J'ai préféré Une Séparation, évidemment.
Oui.
Même Le Client, hein, qui était son dernier film. Mais ça reste quand même de l'excellente qualité. Et Faraday, il sait gérer ses histoires de famille de très belle façon. Il l'a toujours bien fait. Il le fait toujours aussi bien. Donc voilà, c'est pas parce que le tout est peut-être un petit peu en dessous de ses films précédents que celui-ci est raté pour autant.
Très bien, donc ça c'est le film d'ouverture du festival. Tu nous dis aussi, hein, si jamais tu as un pressentiment, en ayant vu le film, tu te dis tiens, il y a peut-être un prix d'interprétation ou autre. Voilà,
d'accord.
Si tu nous dis si tu as déjà des petites pistes, ou
ouais.
Tu n'auras pas des inside news, mais en tout cas des pressentiments, tes pressentiments à toi, tes prédictions.
Mais celui-ci, on peut le préciser, il a fait l'ouverture du festival, mais il est aussi en compétition.
Parce que oui,
c'est pas toujours le cas. En général, le film d'ouverture est rarement en compétition.
Donc dans ce cas-ci, il est en compétition. Et d'ailleurs, il est au cinéma, déjà, en Belgique. Vous pouvez aller voir depuis le mercredi.
Il est sorti mercredi.
Tout à fait. Ensuite, quel est le second film que tu as vu, sachant que le lendemain, donc du coup le mercredi 9, au soir, la première, c'était celle du film Yomedin.
J'ai vu Yomedin, mais j'ai vu un autre film le matin.
Mm-hmm.
J'ai vu le film d'ouverture de la semaine de la critique, qui s'appelle Wildlife, et qui est réalisé par Paul Dano.
Ah, intéressant ça, parce que c'est l'acteur qui était oui, dans plein de trucs différents, mais c'est, enfin, en tout cas il a un visage vachement reconnu, enfin il a une gueule comme on dit dans le milieu.
Ouais, ouais.
Et donc là il a réalisé son premier film, ça parle de quoi, c'est dans quelles circonstances ce film?
Alors, donc Paul Dano, on l'a vu entre autres dans Little Miss Sunshine, There Will Be Blood,
ouais.
Dans Prisoners de Denis Villeneuve. Sa compagne c'est Zoé Kazan, la petite fille d'Elia Kazan, le réalisateur de Sur les quais.
Mmh.
Filmé avec Marlon Brando. Et ils ont écrit ce film, Wildlife, qui parle d'une famille qui a pas mal déménagé et qui débarque, ça se passe dans les années 60, et qui débarque dans un nouveau lieu. Enfin, et quand le film démarre, ils sont déjà dans ce nouveau lieu depuis quelques jours ou quelques semaines.
Mmh.
Et en fait, la relation. Donc le personnage principal, en fait, c'est Joe, qui est le fils de cette famille, il est fils unique. Et il va assister, en fait, à la rupture entre ses parents. Donc le père se fait virer, et puis il va choisir d'aller se battre contre l'incendie énorme, enfin les grands feux de forêt qui menacent les villes des alentours. C'est très mal payé, mais voilà, c'est le seul truc qu'il trouve à ce moment-là. Et sa femme va très mal le vivre. Et pendant que le père va partir plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ben, eux, la mère et Joe vont devoir vivre leur vie seuls. Et, okay. et forcément, en absence du père, ben le chemin de vie de la mère va prendre une autre tournure.
D'accord.
Et donc, quand les retrouvailles vont arriver, ben voilà, on ne sait pas... On ne sait pas ce qui va se passer. Se remettront-ils ensemble? Vont-ils se quitter? Voilà. Donc le suspense, c'est pas tant. Enfin, c'est même pas spécialement l'enjeu. C'est pas de savoir s'ils finissent ensemble ou pas. Mais mm-hmm. c'est voir comment la situation se dégrade. Et voilà comment on en arrive à cette finalité. C'est bien réalisé. C'est plutôt bien écrit, mais c'est un peu chiant. On va pas se mentir. Ouais, je suis resté un peu sur ma fin. Pourtant, les comédiens sont très bons. Il y a quand même Jake Gyllenhaal dans le rôle du père.
Ah ouais, ok, carrément.
Il y a Carey Mulligan dans le rôle de la mère. Et celui qui fait le fils, c'est Ed Oxenbould, qui était dans The Visit de Night Shyamalan.
Okay.
Et aussi dans Safe Neighborhood, un film qui n'est jamais sorti en salle, mais qui était au BIFF l'an dernier et qui a gagné un prix, je pense, d'ailleurs.
Donc, il s'est bien entouré pour son premier film.
Il s'est plutôt bien entouré, ouais.
Ah ouais, sans blague. Et donc le deuxième film en compétition, par contre, ça c'était Yomedin, que tu as vu. C'est quoi, c'est un film iranien, c'est ça?
C'est un film égyptien.
Égyptien, pour ce coup-là.
Ouais.
D'accord.
En fait, c'est l'histoire d'un lépreux qui est guéri, donc il est plus contagieux, et lui ne souffre plus de la maladie, mais il a vécu dans une léproserie toute sa vie. Et, bon, et forcément, vu qu'il a été malade quand même longtemps... Son corps est marqué par tout ça, hein. Ses yeux, ses doigts, enfin, voilà, je pense que tout le monde a déjà vu des images de lépreux, pas besoin de vous faire de dessin.
Non.
Et en fait, il va être rejoint par un... Enfin, il vit sa vie, il n'est pas tout le temps dans la léproserie, il a un petit... enfin, il n'a pas de boulot, mais il va dans les décharges, essayer de récupérer des choses qu'il revend, enfin voilà, il essaie de mener une petite vie. Et sa sœur est dans un asile non loin, il doit s'en occuper. Et il y a un orphelin nubien, donc noir, mm-hmm. qui le fréquente beaucoup. Il l'a un peu pris sous son aile. Et ensemble, vu que... En fait, la femme de Béchaï, c'est le nom du lépreux, va mourir assez vite au début du film. On ne peut pas vraiment parler de spoiler, parce que c'est vraiment ça qui va lancer tout le reste. Et il va essayer de retourner dans sa ville natale. Parce que son père l'a abandonné, en fait. Et voilà, ça, à partir de ce moment-là, ça va partir en road trip avec toutes des questions existentielles.
T'en parles comme si c'était un peu classique. Est-ce que je me trompe?
Alors, c'est classique, mm-hmm. oui, mais c'est vraiment très bien et c'est surtout plein d'émotions. Y a quelques rebondissements qu'on retrouve d'habitude dans les road movies. C'est. Mais ce qui est génial, c'est vraiment l'empathie qu'on a pour les personnages. Après, tout le reste, on a envie de voir ce qui va arriver. Moi, je trouve que le film n'est pas putassier. Certains vont dire que oui, d'office. Mais voilà, le fait est que le réalisateur a une démarche sincère. Mmh. Et donc, c'est juste beau. C'est juste un très beau film. Très humaniste. Surtout quand le personnage, à un moment, il crie « Je suis un homme ». Parce que les lépreux sont traités comme des bêtes.
Ouais.
Et voilà, il y a vraiment de très très beaux moments. Et l'acteur, qui est forcément un vrai lépreux, parce que c'est difficile de jouer un lépreux.
C'est ça.
Enfin, faire jouer un vrai comédien.
Mm-hmm.
Donc, ouais, cet acteur, il est absolument génial. Pour moi, c'était le prix d'interprétation masculine. Il s'appelle Hamed Abdelhafiz. Radhi Gamal, Ahmed Abdelhafiz, c'est celui qui joue le petit garçon.
D'accord.
Mais pour toi, c'est... J'ai vu un autre film plus récemment dans lequel le comédien pourrait rafler le prix. Mais on en reparle un peu plus tard.
On en reparle soon enough.
Mais voilà, Yomedin, c'était une très bonne surprise. Premier film égyptien.
C'est bizarre parce qu'il vient d'Iranien ici, mais peut-être qu'ils sont trompés sur les...
Non, c'est égyptien.
Ok. Troisième film en compétition qui a été montré. Bien sûr, il y a des films hors compétition dont on va parler rapidement, hein, pour pas s'étreindre non plus, parce qu'on a, alors on a un peu beaucoup de films à couvrir.
Ouais.
C'était par exemple le film... Leto.
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 Un film russe.
Ouais.
De Kirill Serebrennikov. Il avait fait, c'était il y a 2 ans, je pense, un film qui s'appelait L'étudiant, que je n'ai pas vu. Mais ici, en fait, on est à Leningrad au début des années 80. Et on est dans le monde un peu underground de la scène rock russe. Avec les disques de Lou Reed et Bowie qui s'échangent sous le manteau.
Hein. Ouais.
Et donc, en fait, on est avec Mike, qui est la star rock du coin, et sa femme, Natacha.
Ouais.
Et ils rencontrent un jeune qui s'appelle Victor, qui a un autre groupe. Enfin, qui veut lancer son groupe. Ils ont quelques compos, mais ils n'arrivent pas à se lancer. Et en fait, c'est vraiment l'histoire de la montée de ce garçon, comment il va rentrer dans la scène rock de Leningrad, comment il va tenter de percer.
D'accord.
Donc, il y a de très beaux moments musicaux. Il y a des moments de chorégraphie, carrément, avec de la musique où les personnages se mettent à chanter. Par exemple, il y a Psycho Killer de Talking Heads. Il y a du hip hop, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a du Lou Reed aussi, enfin, ouais. Voilà, il y a 3-4 passages musicaux un peu chorégraphiés. Le film est en noir et blanc.
Oula, ok.
Je l'ai pas dit, mais du coup enfin, je crois que c'est juste un choix pour essayer de garder une
nostalgie,
un truc un peu intemporel comme ça. Mmh. Et ça fonctionne plutôt bien, c'est absolument pas gênant. Sinon, le film parle aussi de la jeunesse russe. C'est pas juste un film musical.
Ouais, bien sûr,
on n'est pas du tout dans la jeunesse russe. On n'est pas dans la comédie, musicale, ni dans le film purement musical. C'est aussi une critique sociale, un portrait d'une jeunesse. C'est une il y a tout un volet politique, il y a une ode à l'art, à la liberté. Mm-hmm. Il y a aussi un côté feel good movie, il y a du drame, il y a de la romance, il y a vraiment énormément de choses, et donc ça donne un film un peu hybride qui aurait pu être un peu boiteux, mais en fait ça fonctionne super bien.
Ok,
je pensais que ça serait un peu gênant, mais non. Et du coup, ça donne un des meilleurs films de la compétition, ça c'est sûr. Je pense qu'il sera au palmarès. S'il n'y est pas, c'est bizarre et même carrément dommage. Voilà.
Cool.
C'était une bonne première journée. Surtout que... j'ai vu l'étoile le lendemain, mais...
Oui, oui.
Mais ce jour-là, il y a aussi eu un film et une masterclass. Le film, c'était Mean Streets de Scorsese, qui était suivi d'une masterclass de Scorsese.
Et tu as eu l'occasion de rencontrer Marty.
Et c'était absolument passionnant.
Ça semble.
Une heure et demie à entendre parler ce monstre du cinéma, ça fait quelque chose, quoi. Vraiment, le respect. Grand respect. Alors, je ne vais pas vous raconter ce qui a été dit. Voilà. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais revoir un tel film que Mean Streets et puis avoir la suite avec Scorsese, c'est vraiment... passionnant.
Pour que vous ayez un peu une idée du Festival de Cannes en termes de contenu, parce qu'il y a énormément de choses, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilités différentes dans la journée. Donc il y a 9, entre guillemets, salles.
Plus.
Ouais, même
ça, c'est
plus.
Les salles principales.
Voilà, donc ça, c'est les principales. Il y en a 9 principales. Forcément, il y en a 3 où il y a les films de compétition, les gros films, entre guillemets, que tout le monde veut voir. Et puis après, bon, on va plus dans des sélections, dans des premiers, voilà, comme tu disais, Semaine de la Critique, Quinzaine des Réalisateurs, etc. Et puis après, on a même parfois des films qui ne sont pas en compétition, qui sont du coup liés au marché du film. C'est le cas, je vois ça pour le jeudi, il y a eu La Première Année de Thomas Lilti, qui est un film assez attendu, en tout cas en France, notamment pour les comédies,
ouais.
Qui était montré, tu ne l'as pas vu, hein, je suppose.
Non.
Tu n'as pas eu l'occasion.
J'ai des amis qui l'ont vu.
Donc voilà, tout ce genre de choses, c'est assez particulier de voir comme ça. Ça fait beaucoup d'options, et donc quand on fait sa journée, ce n'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'on va sacrifier, qu'est-ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va écrire, quand est-ce qu'on va...
Ouais.
Voilà, il y a du boulot. Donc ça c'était Leto. Ensuite, après Leto, il y avait Plaire, Aimer et Courir Vite de Christophe Honoré, à part si je me trompe, hein, dis-moi, hein. Après il y a Cold War, je pense, mais dans un premier temps
ce seront les deux prochains. Oui,
bah allons-y.
Ah non, j'ai vu un autre film avant, je vais en parler tout de suite.
Attention,
parce que bon, j'ai pas encore écrit dessus.
Je parlais de compétition, hein. Plaire, Aimer, Courir
Vite,
Cold
War, ouais. Mais histoire de pas perdre le fil de mes idées, je vais
Vas-y.
Je vais faire plutôt dans l'ordre chronologique de ceux que j'ai vus, parce que vu qu'il y a l'horaire devant mes yeux, c'est plus simple. J'ai vu un film à la quinzaine des réalisateurs qui s'appelle Les confins du monde de Guillaume Niclou. et qui raconte en fait la guerre d'Indochine. Enfin, la guerre qui a eu lieu en Indochine juste après la Seconde Guerre mondiale, donc à partir de 1945, plus ou moins. Et on a avec un soldat qui est incarné par Guillaume Gaspard Ulliel, pardon. Je sais pas pourquoi je dis Guillaume.
Guillaume Gallienne.
Ouais, non, mais, moi j'ai voulu dire Guillaume Gallienne, je crois, mais.
Guillaume Gallienne.
Gaspard Ulliel.
Ok.
Dont toute la section, tout le bataillon va être décimé. Et lui, il survit à ça. Et en fait, il va se mettre en tête de se venger.
D'accord.
Du soldat, enfin du dirigeant.
Et la rédemption.
Et donc, il va retourner dans une autre unité, remonter des coups, il va prendre des galons et essayer de poursuivre son objectif. Donc voilà, je disais qu'il y avait Gaspard Ulliel, il y a aussi Gérard Depardieu, il y a Guillaume Guix. C'est là pour les gros noms. Il y a beaucoup d'acteurs asiatiques aussi, évidemment, c'est ce qui est logique. Alors le film en lui-même, je ne sais pas trop quoi en penser. Il y a des choses que je trouve bien. Le film ne fait pas de concessions, c'est parfois assez trash. Il y a des têtes coupées, des trucs... enfin voilà. Il y a pas de tabou dans le film, quasiment pas. Après, c'est un peu long, ça raconte pas toujours grand-chose, ça prend trop son temps. Et ça, c'est une critique qu'on peut faire à beaucoup de films de Cannes, en fait.
J'ai pas vu beaucoup de films, mais en tout cas, tous ceux que j'ai vus, c'est souvent le truc qui revient, c'est bien, mais il y a souvent le mec qui suit... on a l'impression que c'est le premier montage, quoi. Ils ont tout mis dedans et après ils vont peut-être se dire merde, en fait on aurait pas dû faire un film de 2h45. On peut enlever quelques scènes à gauche à droite parce que c'est vrai que parfois on se dit bon, ça traîne, quoi.
Ouais.
Clairement. Parlons de traîner, on va pas trop traîner parce que
non, c'est vrai
on a pas mal de choses à faire et puis d'ailleurs on doit aller après à une séance, donc voilà. Ensuite on parlait de Plaire, aimer, courir vite en compétition de Christophe Honoré. Qui a fait couler pas mal d'encre. Hein. Ça, en tout cas, quand j'étais à Bruxelles, il y a pas mal d'articles qui parlaient de ce film.
Mais je suis pas très client du film.
Mm-hmm. Pour quelle raison ?
Mais je suis pas très client d'Honoré à la base. Donc... en fait, ça parle d'un homme qui est écrivain et qui, lors d'une séance de dédicace ou de... Non, lors d'une présentation d'une de ses pièces de théâtre, va rencontrer un jeune homme.
C'est qui écrivain, c'est... Ah non, ok, d'accord.
Le personnage...
C'était Vincent Lacoste.
Non. L'écrivain, c'est Pierre de la Donchamp. Et il va rencontrer un jeune homme, joué par Vincent Lacoste, qui... Enfin, ils vont commencer à se fréquenter. Alors, c'était une séance de... Enfin, c'était une pièce qui avait lieu en province. Lui, l'écrivain, habite Paris. Donc, ils vont commencer des échanges de lettres. Je ne sais plus dans quelles années ça se passe.
Des emails, quand même.
Non, pas des emails.
Okay.
Des lettres.
Ok.
On est avant l'ère informatique.
Avant l'ère du digital, les Messenger et Snapchat.
Ouais, c'est ça. On est début des années 90, voilà. Donc nous ne sommes pas encore à l'ère numérique.
Ouais, 100% numérique, non.
Et donc voilà, en fait, c'est l'histoire de ces deux personnes qui vont se lier. Mais il y a une épée de Damoclès qui pend au-dessus de l'un d'eux. Problématique. Sida.
Ah. Ah oui, ok, d'accord.
Donc voilà, je sais tout ce que je veux en dire sur l'histoire, mais j'aime bien le duo de comédiens, je trouve qu'ils sont bien tous les deux. Mm-hmm. La mise en scène d'Honoré est plutôt bonne aussi, mais voilà, ça m'a pas emballé plus que ça. Je peux clairement pas dire que c'est mauvais, mais vraiment, moi, ça m'a laissé un peu de côté.
Un peu froid.
Ouais. Et c'est la critique la moins analytique que j'ai faite de ma vie, mais ouais. Pour le coup...
Parfois, on ne sait pas trop quoi dire. Si
j'étais
pas.
Content de ne pas devoir la faire, pour le coup.
Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a eu Cold War, un film polonais. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, du coup.
Je l'ai vu.
Parle-moi ça.
C'est une histoire d'amour impossible, en fait. On est en Pologne après la Seconde Guerre mondiale, en pleine guerre froide. Où deux personnes vont se rencontrer, un professeur de musique et de danse dans une école, enfin dans une académie, enfin, ou une troupe de danse, et une des pensionnaires, enfin des étudiantes. Et le film se déroule sur plusieurs dizaines d'années, enfin au moins 15-20 ans, à chaque fois, donc ces deux personnes s'aiment, mais à un moment, leurs vies vont se séparer. Et tous les X, ils se retrouvent à l'occasion de concerts, enfin de représentations, de voilà, d'événements, etc. Et l'amour, évidemment, est toujours là, mais il y a un moment où les choix de chacun font que c'est un amour impossible, voilà. Donc je vais pas en dire plus.
Non.
Alors on n'est pas dans La La Land, hein, avec un épilogue où après on refait leur vie en disant si, tu vois. Mais y a un petit truc comme ça, d'une certaine façon. Et j'ai beaucoup aimé. Le film fait 1h25. C'est aussi un film en noir et blanc. C'est réalisé par Pavel Pawlikowski, qui avait fait Ida. Mm-hmm. Je pense qu'il avait été primé. Alors je pense que c'était à Berlin. Mais peut-être que je me trompe. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez... c'est pas complètement original. Mais c'est très bien fait. Et c'est un peu atypique, en fait, quand même, malgré tout. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de film, surtout raconté comme ça. Donc vraiment...
Non.
C'était une bonne surprise aussi. Pour moi, ça fait partie des meilleurs films de la compétition.
Ah, oui, carrément.
Oui, oui, carrément.
Carrément. Bon, retenons-le alors. Cold War, film polonais. D'1h24, c'est assez particulier. Hein, Festival des Cannes en a parlé. Hein. D'habitude, on est 2h20, 2h05,
c'est court, mais c'est très bien. C'est court et
parfois,
très bien.
Parfois, il faut mieux être court et efficace.
Voilà.
Ensuite, un autre film qui est très court, hein, 1h25, je ne sais pas si tu l'as vu, Jean-Luc Godard avec son livre d'images.
Alors, tu en passes un, si tu veux bien.
Trop vite.
Un film qui était en hors compétition, avec un certain Mads Mikkelsen. Le film s'appelle Arctic, de Joe Pena. C'est un premier film.
J'en passe un effet.
Et je vais être assez court dessus, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. En fait, c'est un survival. C'est un gars qui a fait un crash d'avion en Arctique, d'où le titre. Et qui, au moment où le film commence, le crash a déjà eu lieu, visiblement depuis plusieurs jours, voire semaines, parce que le gars est déjà dans une certaine routine de survie, aller chercher les poissons, aller activer les balises à différents points pour essayer d'être repéré, de repérer un signal.
C'est Robinson Crusoe sur l'Arctique.
Si tu veux, c'est ça. C'est, à un moment, sa balise va être repérée.
Okay.
Et va y avoir un hélicoptère. Mais il y aura beaucoup de vent. Il va y avoir des problèmes avec cet hélicoptère. Et donc, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Non. Et la survie va peut-être durer plus longtemps.
Oh, yeah, yeah.
Et c'était plutôt cool. Donc, c'est juste un survival. Il n'y a rien de, y a rien d'extraordinaire, mais c'est dans la neige. Ça change un peu. Mads Mikkelsen est quasiment seul pendant tout le film. Il n'est pas complètement seul, parce que comme je disais, il y a un hélicoptère qui arrive en cours de route, avec une pilote, entre autres. Après, la fille, elle n'a pas grand-chose à défendre, mais elle fait très bien ce qu'elle a à faire. Mais Mads Mikkelsen est absolument génial, hein. Il porte tout le film. Il est là tout le temps. Et voilà, il est absolument génial. Donc c'est vraiment un survival assez cool, qui n'est pas exceptionnel, mais voilà, j'ai passé un très bon moment.
Bah, tu parlais de ça parce que justement, c'est vrai que des films hors compétition parfois font plaisir. Quand on a des films... voilà, iranien, libanais, égyptien ou autre, qui sont souvent des films assez sérieux, dramatiques, d'avoir un film hors compétition qui arrive comme ça, te balancer un truc survival ou bien même une comédie, ça fait un peu du bien pour un journaliste ou autre qui est ici à couvrir beaucoup de films qui sont parfois lourds émotionnellement et dramatiques. Quoi.
Ah, complètement.
Donc dans ce cas-ci, c'était bienvenu. Donc le livre d'images Jean-Luc Godard, tu ne l'as pas vu, je pense.
Je ne l'ai pas vu.
Il paraît que c'était un scandale, notamment la conférence de fesses. Tout va bien. Bravo. La conférence de presse sur iPhone, ça j'ai vu.
Oui, ils ont fait par FaceTime parce qu'il n'était pas là.
Par FaceTime, c'est beau ça.
Ouais. Mais de la compétition ce jour-là, je n'ai vu que Les Éternels. Mais j'ai vu un autre film, deux autres films en.
Oui, je crois que c'est mon GSM qui fait des vibrations. Mais d'un côté, c'est bizarre parce que je ne reçois absolument aucun SMS, ni appel, ni SMS, enfin rien du tout. Donc c'est très étrange. Je vais le garder bien loin parce que je suis obligé forcément de voir le programme. Sans ça, ça va être compliqué.
Mais donc, je disais donc, j'ai vu un film qui était présenté à Un Certain Regard et j'en ai vu un autre qui était en hors compétition. Est-ce que tu veux que j'en parle ou pas?
C'était lequel?
Alors il y en a un, ça s'appelle. Un ou deux? Il y en a un. Qui s'appelle L'Ange, El Angel, un film argentin sur une histoire de voleurs, mais des vols violents. Et le jeune a 19, 20 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Mm-hmm. Donc c'était assez drôle, enfin même très drôle. Alors, c'est pas vraiment Enfin, c'est moitié drame, moitié comédie. C'était assez spécial, mais vraiment super bien. Avec, entre autres, le film de Ricardo Darín. Donc, j'ai beaucoup aimé ce film. Et l'autre, qui était en hors compétition, s'appelle Another Day of Life, qui est une coproduction belge. Mmh. Et ça, c'est un film d'animation, enfin, qui mixe de l'animation avec des prises de vue réelles. Ça parle de l'indépendance de l'Angola. Alors comme ça, ça n'a pas l'air très, très emballant. Mais en fait, c'est hyper intéressant, parce que je ne connaissais absolument pas cette histoire. C'est un journaliste qui raconte ça. Enfin, c'est l'histoire d'un journaliste qui a joué un rôle hyper important pour couvrir cette guerre. Mmh. Et dont les actions ont même eu un rôle primordial dans l'issue de la guerre. S'il avait dit certaines infos, ou s'il n'avait pas dit certaines infos, l'issue n'aurait pas été la même, clairement. Okay. Ceux qui ont gagné, donc la partie du pays qui était soutenue par les Russes, mmh, a gagné. Et si le journaliste polonais, parce que c'est un journaliste polonais qui est le personnage principal, n'avait pas été là, vraiment, la guerre aura pu prendre une toute autre tournure, et ce serait plutôt la partie soutenue par les Américains qui aurait pu gagner. Et donc, je disais, le film en animation, globalement, mais comme il s'agit d'une histoire vraie, il y a des témoignages des personnes qui ont croisé le chemin de ce journaliste, oui, qui témoignent parfois. Et donc, voilà, t'as l'animation, et puis hop, il y a un témoignage. D'accord. Avec le gars qui parle en voix off, et tu revois après en animation ce qu'il explique. Enfin, t'as pas l'explication deux fois, mais voilà, le montage est tel que les deux se marient super bien. Mm-hmm. Et c'était vraiment très intéressant et très réussi, donc j'étais content.
Tu parlais du film Les Éternels, que tu as vu ensuite, film chinois.
Ouais.
Je ne vais pas essayer de prononcer le nom du réalisateur, on peut essayer.
Eh bien, écoute,
Jiazhenke.
Sache qu'il y a au moins une demi-heure de trop. Hein.
2h20.
Ouais, il dure 2h20. C'était un peu interminable. Et ça parle, entre autres, de... En fait, ce sont deux personnages qui font partie de la mafia, de la pègre locale. Mm-hmm. Et un jour, la femme va sauver la vie du chef. Enfin, une femme qui est un peu sa compagne, sa old lady, comme on dit dans Sons of Anarchy, tu vois.
Oui.
Elle va sauver la vie du chef. Mais elle va faire de la prison pour ça. Et en fait, c'est une histoire d'amour aussi qui va s'étirer sur plusieurs années. Mmh. Mais l'amour ne sera pas toujours là. Hein, parce que pendant qu'elle fait de la tôle, lui... Il va refaire un peu sa vie ailleurs aussi. Enfin, voilà, les choses évoluent. Mais il n'est pas question que d'amour dans le film. Il est aussi question d'amitié et surtout de fidélité. Parce que voilà, c'est la pègre, donc on ne fait pas tout ce qu'on veut. Mmh. Et c'est comme dans tous les films de Jiazhenke, ça parle aussi énormément de l'économie, de la société chinoise. Donc ça, c'est toujours un portrait intéressant. En fait, Les Éternels, c'est un peu un film somme pour Jiazhenke. Pour ceux qui connaissent un peu son cinéma, vous allez vraiment retrouver toutes les thématiques habituelles. Traité pas forcément toujours hyper en profondeur, mais de manière assez subtile pour que ce soit intéressant et surtout intelligent. Donc après l'issue de l'histoire, je vais pas en dire plus. Mais c'est le genre de film où si tu veux résumer, en fait je crois que le synopsis officiel du film, en fait, il te raconte tout le film, parce que il y a quelques périodes et il se passe pas forcément grand chose, donc voilà, c'est particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est la mise en scène, c'est les acteurs qui sont excellents, voilà.
Je propose qu'on rentre dans la journée de samedi, qui est une journée, j'ai l'impression, en termes de films de compétition, c'était un peu moins chargé, puisqu'il y a eu plein de films, par contre, en critique, semaine de la critique, etc., qui étaient plus importants, en tout cas, qui ont fait beaucoup de bruit. Il y a eu Girl, normalement, de Lucas Daunt, donc un film belge.
Ouais, que je n'ai pas vu.
Aigle d'ange avec Marion Cotillard, un film français où elle interprète une pouf, on peut dire.
Que j'ai vu. Une pouf, c'est un peu ça, ouais.
Un peu ça, une fille complètement larguée qui regarde beaucoup Cyril Hanouna. Voilà, c'est ça, c'est un peu le style. Donc ça, c'était des films. Bon, il y a aussi Les Filles du Soleil en compétition et Trois Visages en compétition. Je te propose de choisir un des films pour en parler, parce que sinon, ça va être compliqué de faire la suite.
Alors, ben, je peux parler de Gueule d'Ange, parce que de toute façon, j'ai pas vraiment vu les autres ce jour-là, j'ai pas vu grand-chose. Parce que j'avais une interview aussi, en même temps, je crois. Ouais. Oui, j'avais une interview. Alors, d'ailleurs, on n'a pas parlé du film que j'ai vu, Je ne le vois même plus là comme ça dans le programme. Mais alors, du coup, je vais peut-être parler rapidement du film pour lequel j'ai fait une interview.
Oui.
Donc, j'ai fait l'interview de Vincent Cassel pour un film qui s'appelle Le Monde est à toi, qui est un film de Romain Gavras, où, en gros, le schéma narratif, c'est des mecs qui ont une mission à faire. Ils vont se faire arnaquer. Et le but, ça va être d'arnaquer les arnaqueurs.
D'accord.
Donc, c'est un schéma assez classique.
No You See Me, mais
version... Qui n'est pas hyper original. D'ailleurs, au mois de février, il y a Adil et Bilal qui ont fait Pas de serre. C'est un peu dans la même trempe, un peu dans la même veine. Mais ici, le truc, c'est que les Français font moins souvent ce genre de choses. Et ici, c'est très réussi. On s'amuse beaucoup. J'ai vraiment beaucoup rigolé. Il y a des personnages qui sont vraiment excellents, comme ceux d'Isabelle Adjani, de Vincent Cassel. Il y a François Damiens qui a un petit rôle aussi. Philippe Catherine qui a un petit rôle. Et le rôle principal est tenu par Karim Leclou, qui depuis 2-3 ans explose complètement. Donc voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment. Et l'interview de Vincent Cassel, vous pourrez la retrouver
sur Cinéphilia,
un de ces jours, sur Cinéphilia et Ciné News, a priori.
En effet.
Et donc,
Gueule d'Ange.
Gueule d'Ange, qui est présenté à Un Certain Regard, c'est un film où Marion Cotillard joue une, comme tu l'as bien dit, une pouffe, une fille complètement paumée dans la vie, qui en est à son quatrième ou cinquième mariage, et le soir de son mariage, pendant la soirée, elle va faire des petites choses dans les toilettes avec un des invités.
Ah, des galipettes.
Des galipettes.
Jouer au Scrabble, comme dirait mon
père. Et son époux la cherche. Et il l'a trouvée.
Oui, oui, oui.
Et il avait la fille du personnage de Marion Cotillard dans les bras.
Ouf.
Et donc la rebelote retourne dans la spirale infernale.
Célibataire,
mère célibataire paumée, pas beaucoup d'argent. Elle boit beaucoup trop. Et d'ailleurs, sa fille boit en cachette aussi.
Sympa.
En fait, le problème, c'est que. Et c'est ça qui est dérangeant. C'est que le personnage de la fille essaye de ressembler à sa mère d'une certaine façon. Elle prend toutes les mauvaises habitudes de sa mère parce que c'est le seul exemple qu'elle a et c'est pas un bon exemple. Donc la fille, elle s'embarque très mal. Et puis alors le personnage de Cotillard, à un moment elle va en boîte lors d'un soir avec sa fille.
Sympa.
Oui, déjà la gamine elle a même pas 10 ans et elle se retrouve en boîte quoi. Et
c'est l'anti-femme modèle en fait.
Ah, complètement, okay. Complètement. Et au lieu de... Déjà, c'est déjà pas normal d'aller avec sa fille en boîte.
Oui.
Au lieu de rentrer paisiblement chez elle en fin de soirée avec sa fille, non. Elle met sa fille dans un taxi. Et elle va aller emballer l'autre kéké du coin.
Ok.
Super, hein ?
Oui, pas mal.
Donc la fille, elle va être livrée elle-même, voilà. Et donc on est vraiment dans une spirale très négative qui est difficile. Et le film l'est tout autant. Il n'est pas génial. Pour faire simple.
Dimanche. Passons au dimanche.
Oui. Et là, t'es arrivé dimanche.
Non, je suis arrivé lundi, moi.
Non, t'es arrivé dimanche.
Oui, dimanche soir, mais très tard, je ne pouvais rien voir.
Mais dimanche, j'ai pas vu le premier film qui est Trois visages de Jafar Panahi, mais j'ai vu Nos batailles. Enfin, je l'avais vu avant.
Pas possible.
D'ailleurs, interview du réalisateur Guillaume Sanez à retrouver prochainement.
Oui.
Nos batailles, c'est son deuxième film. Et il a en tête d'affiche Romain Duris, qui trouve ici un de ses meilleurs rôles sa carrière. Il est vraiment génial. Et après les projets canoises, j'ai même vu des retours disant film à surveiller pour les Césars.
Ah,
ouais. Pour Romain Duris, pardon. J'ai toujours envie de dire Guillaume. Tous les acteurs, je les appelais Guillaume.
Oui, mais oui,
pour Romain Duris, principalement. Mais clairement, on est à un niveau au-dessus de mise en scène par rapport à Keeper. Guillaume Sanez, il s'est vraiment... je vais pas parler d'amélioration, mais il est vraiment un tout autre niveau, quoi. C'est un futur grand, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Le casting est génial, Laetitia Doche,
Il y a Climax
Lord Calamy, voilà, il y a plein de choses et c'était très très bien.
Il y a eu Climax de Gaspard Noé ce jour-là aussi, c'est pas si l'occasion de le voir.
Non, mais je m'en fous éperdument de Gaspard Noé.
Voilà, au moins c'est clair. oui, donc il y a eu plusieurs films. 2001, l'Odyssée de l'espace en présence de Christopher Nolan, tu l'as pas vu ?
Ben non, pas vu. Malheureusement.
Je crois que c'est Eric qui a vu ça. Ouais. T'as vu quoi d'autre ?
Mais je vais essayer d'aller le rattraper à Paris.
Lazzaro Felice.
En fait, ce jour-là, j'ai rien vu parce que j'avais des choses à retranscrire. J'avais
journée boulot.
Des gens à accueillir à l'appartement.
Bon, ça va, moi je suis arrivé très tard. Hein.
Oui, enfin voilà. Et j'avais des cocktails et des trucs.
Des cocktails.
C'était très networking dimanche.
Des barbecues, oui, oui, oui.
J'avais un cocktail, un barbecue, une soirée.
Donc je suis arrivé tout seul à l'appartement bien, bien tard.
Pauvre enfant.
Pauvre enfant. Ben oui, moi j'ai vu un film qui... Je l'ai rattrapé le lendemain, mais il est passé ce jour-là, en tout cas, à Cannes. Le Grand Bain, c'est le premier film de Gilles Lelouch. Donc Gilles Lelouch, vous voyez tout ce qu'il sait. Hein. Qui, là, réalise son film, en fait, c'est une histoire qui ressemble très fort au Full Monty, puisque c'est des quadragénaires un peu dépressifs, tous des paumés de la vie, hein, on peut le dire, qui décident de se regrouper ensemble pour faire des séances de natation synchronisée, ce qui donne un concept assez rigolo, mais qui ne se limite pas, en fait, à être complètement potache et tu sais, juste dans l'humour où on va avoir Benoît Poulvord. Ah oui, j'ai oublié de le dire, parce qu'il y a un casting 5 étoiles avec notamment Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Benoît Poulvord, Marina Foïs, Virginie Efira, aussi Philippe Catherine. Donc il y a vraiment une grosse brochette d'acteurs. Gilles Lelouch ne joue pas dans le film, mais il réalise. Et voilà, donc c'est des gens qui vont... Ils s'amusent, je pense, les acteurs prennent tous du plaisir dans ce film-là, ça se voit, et ils ont tous des personnages qui sont à contre-pied de leur image publique, avec Guillaume Canet qui est un type complètement colérique, qui pète tout sous son passage dès qu'il s'énerve, Philippe Catherine qui joue le gros simplet de la bande, qui est vraiment débile pour le coup, Mathieu Amalric qui passe sa vie sous antidépresseur. Donc c'est assez drôle de voir ces gens-là dans ce film, beaucoup d'humour, et comme je le disais, pas que, puisqu'il parvient parfois à nous envoyer une grosse dose d'humanité et de tristesse parfois. Donc c'est vrai que c'est un film qui mélange bien le rire aux larmes, et donc pour moi c'était une belle entrée en matière de mon festival de Cannes. J'ai bien aimé avoir commencé par ce film qui était une grosse bouffée d'air frais et qui m'a donné envie de du coup voir plus de films, parce que je pense que si j'avais vu un film de 3h30 ou bien le film de 8h chinois, je sais pas si je serais resté. Donc voilà. Donc oui, super film. Et il sortira en octobre chez nous. Donc on a un petit peu de temps à patienter. Mais je vous le conseille si vous aimez les comédies qui ont de la jugeote et du cœur.
Et on aura aussi une interview de Gilles Lelouch.
Et il y aura aussi une interview de Gilles Lelouch qui est d'ailleurs, qui est déjà sur le site de Cinéphilia et sur le site de CineNews bientôt. Elle l'est pas encore, mais à mon avis, elle va bientôt y être. En tout cas, c'est envoyé. Ça, c'est fait. Donc ça c'est pour le dimanche où là tu n'étais pas très disponible. Là maintenant on pourra parler ensemble parce qu'il y a des trucs que j'ai vus.
Mais oui. Mais moi le lundi je l'ai commencé avec une affaire de famille,
oui,
d'un réalisateur que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Hirokazu Koreeda, dont pour moi un de ses meilleurs films est Tel père tel fils. Il avait gagné un prix d'ailleurs pour ça à Cannes il y a quelques années, 2013 ou 2014 je crois, et il fait un film par an plus ou moins. J'ai pas vu le tout dernier, cela dit, enfin, qui est désormais l'avant-dernier.
Oui.
Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un super réalisateur qui traite principalement de la thématique de la famille. Et ici, il s'agit d'une famille...
C'est un pote à Vin Diesel ou quoi?
Ouh là 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 là.
Oh, c'est la fin du festival. On dort pas beaucoup.
Non. Mais ici, il s'agit d'une famille assez particulière. Parce que déjà, elle vole et elle fait du vol à l'étalage. Et l'histoire commence alors qu'il y a une petite fille qui est seule sur la terrasse devant sa maison, derrière sa maison, livrée à elle-même. Il y a pas de, les parents sont pas là. Et du coup, ils se disent, elle peut pas rester là, la petite. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ils la ramènent. Tu m'as emmerdé avec ton téléphone.
Ouais, mais c'est bizarre parce que j'ai aucune notification, rien du tout. C'est pas possible, il va pas me faire chier comme ça de la journée. Non, c'est bon. Oui.
Et du coup, ils ramènent la petite, ils la nourrissent et ils veulent la ramener. Et puis au moment de la ramener, ils entendent des cris dans la maison et ils se rendent compte que la famille dans laquelle elle est, c'est peut-être pas la famille idéale. Mais bon, la famille dont je te parle, elle est peut-être pas idéale non plus. Elle a beaucoup de défauts qu'on découvre au fur et à mesure du film, et c'est...
Une belle affaire de famille, quoi.
Une belle affaire de famille, exactement. Le film, c'est un drame, comme tous les films de Koreeda, mais il y a quand même de l'humour et beaucoup de...
Quoi, c'est
un peu de sensiblerie aussi.
C'est un peu un festin japonais, ou quoi, c'est ça le...
Non, on n'est pas dans le festin japonais, mais quand même pas. Mais okay. C'est vraiment un pur film de Koreeda, pour moi, c'est un de ses meilleurs de ces dernières années, peut-être pas à la hauteur de tel père tel fils, mais au moins peut-être de notre petite sœur qui était sortie l'année suivante. Donc vraiment, je pense que c'est aussi un film qu'on retrouvera au palmarès.
Bah écoute, rien que ça. Ensuite, ce jour-là, il y a eu un film qu'on a vu du coup tous les deux, on va en discuter. Le nouveau film de Spike Lee, Black Klansman, tout à fait, avec 3K au milieu, qui est un film... comment dire ça ? Oui, bon, bah, c'est Spike Lee, donc il y va par quatre chemins, hein, on va dire. Son message est assez clair, c'est oui. Droit dans ta figure dès la première scène, presque, jusqu'au bout du film. Donc c'est un film qui raconte, en fait, un noir, dans les années 70, qui va intégrer la police de Colorado Springs et qui va tenter de s'intégrer indirectement, via un de ses collègues blancs, dans le Ku Klux Klan.
Mais c'est pas via un de ses collègues, c'est... Oui. Il va s'infiltrer dans le Ku Klux Klan, mais de manière orale. Lui, il va avoir tous les contacts par téléphone, etc.
Avec le
président. Par contre, etc. Pour être représenté physiquement, là...
Il doit envoyer son pote blanc.
Oui. Bah ouais, parce que quand t'es noir, tu te pointes pas. Les gars, je peux rejoindre le Ku Klux Klan. Non, ça marche pas. Exactement. Comme ça.
Donc on a droit quand même à des situations assez cocasses et parfois même humoristiques, dans un contexte qui est très dramatique. Complètement. Et assez lourd. Mais voilà, c'est fait avec... Ça ressemble un peu au style de Tarantino. Alors, on parle pas du sang qui gigue ou des trucs comme ça. On parle vraiment du côté un peu, tu sais, l'humour rapide, les petites feintes, les petites phrases, les répliques qui sont assez bonnes. Avec le côté Spike Lee, où on va te faire des remarques très très claires sur « It's time to make America great again », et trucs comme ça, et tu comprends très bien que...
Oui, enfin, pas dans le même sens que le président Moumout. Hein.
Voilà, donc on sent que, bon, il est en train de... Il utilise son film pour clairement envoyer des messages à Donald et les autres. Donc voilà, mais pour moi, du coup, le film, le gros problème, et on va en parler, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, on comprend très vite où ils vont en venir, et c'est un petit peu, bon, on a compris le message, ouais. Fais quelque chose, avance, raconte une histoire, mais là, t'es un peu en train de tourner en rond, quoi.
Ouais, il n'y a clairement pas vraiment beaucoup d'enjeux, parce que, à nouveau, c'est aussi une histoire vraie, mm-hmm. En tout cas, inspirée de la réalité. Et il y a aussi un souci, c'est que... En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on regarde les films de Spike Lee, c'est que lui, il est toujours très radical dans son message, dans sa mise en scène. Et j'ai déjà dit dans la petite vidéo qu'on a faite, qui est sur la page Facebook de Cinécast, avec lui, il combat toujours le feu par le feu. Mmh. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, il n'y a pas beaucoup de nuances. Donc voilà, il faut garder en tête que Spike Lee, ça reste un militant. Et sa cause est absolument pas illégitime, loin de là, mais c'est pas quelqu'un qui va avec des pincettes, quoi. Voilà, faut garder ça en tête. Après, effectivement, c'est vrai que le fait qu'il peut voir pas d'enjeu, c'est dommage, mais je trouve que l'histoire en elle-même est tellement tellement folle qu'elle se suffit presque à elle-même. Et puis après, il y a aussi d'incroyables comédiens, il y a John David Washington, le fils de Denzel, et Adam Driver qui joue tous les deux, donc ce flic. Il y a Topher Grace, il y a Laura Harrier aussi, enfin voilà, il y a vraiment de très bons comédiens, et ça fonctionne à merveille, moi j'ai passé un excellent moment.
Et il y a aussi un autre film ce jour-là dont on n'a pas parlé, qui était, je crois que c'était Semaine de la Critique, ou Un Certain Regard, oui c'est ça, Les Chatouilles.
Oui, tout à fait.
Tu l'as vu, toi, hein, tu voulais en dire un mot,
parce que j'ai vu Les Chatouilles, cas, ouais. Alors en fait, Les Chatouilles, ça fait référence à des choses pas très jolies.
Oui, hein.
On parle pas de chatouilles d'enfants qui jouent ensemble. On parle de chatouilles un peu plus trash. Comment dire ? On peut dire trash ?
Quoi, c'est chatouilles entre frères et sœurs, chatouilles entre père et fille ?
Bah, c'est plutôt entre... entre un ami d'une famille et la fille d'une famille mineure.
Grand sujet ces dernières années.
Voilà. Ouais. Ça parle de pédophilie et c'est adapté de la pièce d'Andrea Bescon, ici co-réalisée avec Éric Métayer. Et en fait, donc Andrea Bescon adapte sa propre pièce qui est déjà tirée de sa propre vie. En fait, c'est complètement autobiographique cette histoire. Okay. Et c'est très lourd. Le film met hyper mal à l'aise. Parce qu'une des premières scènes, c'est un type qui va voir la gamine et qui lui fait « Est-ce que tu veux qu'on joue à la poupée ? Alors toi, tu fais la poupée et moi, je joue avec toi. » Et puis il l'emmène dans la salle de bain, quoi.
Ouais.
Voilà, ça c'est la première scène.
Ah bah ça va.
Boum. Prends ça dans ta gueule, quoi.
Oui, c'est ça. Merci d'être venu. Tu l'as vu à quelle heure, 8h30 ou
non, non, à 14h. Mais, mais non, c'est, clairement, c'est pas facile. Et alors, c'est très réussi, c'est évidemment hyper touchant. Il y a un côté très théâtral dans la mise en scène. Il y a des intermèdes, notamment des parties dansées, parce qu'elle est danseuse aussi. Donc, elle a réussi à garder beaucoup d'éléments de la pièce que je n'ai pas vu. Mais plusieurs personnes qui l'ont vu m'en ont parlé. Elle a gardé beaucoup d'éléments de la pièce qu'elle a pu insérer dans le film. Et ça s'articule super bien. Il y a quelque chose que j'aime énormément dans le film, c'est les transitions notamment, qui sont hyper fluides. Et par exemple, le personnage va chez sa psy et elle lui raconte sa vie, en fait. Mmh. Et il y a des moments, en fait, cette séance de psy, elle a lieu dans les lieux qu'elle décrit.
Ouais.
Donc il y a une espèce de transition entre ce qu'elle raconte et puis le moment où elle est chez la psy.
D'accord.
Mais qui ont lieu dans le même décor, si tu veux. Et ça, okay, fonctionne super bien. C'est très intéressant. C'est pas du tout lourd, donc c'est assez fluide. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et au-delà de ça, le film est très réussi, quoi. Donc vraiment, c'est super.
Parlons d'un autre film qui...
J'aimerais revenir, ouais, sur un autre dont on n'a pas parlé.
Ouais, vas-y.
Qui avait eu lieu un peu plus tôt. C'est Mandy de Panos Cosmatos, qui était à la quinzaine des réalisateurs.
T'as vu,
un film avec Nicolas Cage qui a été tourné en Belgique l'été dernier. Et en gros, c'est une expérience sensitive, enfin sensorielle, complètement dingue. Et c'est hyper coloré et c'est une histoire de vengeance. Donc c'est Nicolas Cage avec une tronçonneuse et une espèce d'épée hache qu'il se confectionne.
Okay.
C'est très très bizarre au début, hein, on va pas se mentir. C'est pas on n'est pas dans le simple film de revanche classique. On est dans quelque chose de beaucoup plus barré. Mais c'était génial. C'est une de mes meilleures séances canoises, vraiment. L'ambiance dans la salle était dingue.
C'est vrai que Nicolas Cage, c'est un gros fou avec une tronçonneuse, ça donne envie.
Ouais.
Un autre film toujours très jouissif et très, très drôle, hein. C'était le film de Lars von Trier qu'on a vu suite à cela, The House That Jack Built, oui c'est ça, qui en fait suit le quotidien presque, hein. Enfin non pas le quotidien, 5 incidents, on peut dire ça comme ça, d'un serial killer, qui est fictif bien sûr, c'est pas un vrai serial killer, mais donc c'est un homme aux États-Unis qui tue principalement des femmes, il tue aussi des hommes et des enfants, mais qui tue principalement des femmes, et on va suivre dans la typique Lars von Trier, il nous met les yeux droit dedans, quoi. 5 crimes, 5 choses qu'il a commises, avec des degrés de violence différents, bien sûr, mais quoi qu'il arrive, on a beaucoup d'humour dans chacune des 5 séances, ce qui permet au film de ne pas être non plus trop choquant, parce que je dois avouer qu'il y a 2-3 moments du film où c'est clair que âme sensible s'abstenir, quoi, hein, ça c'est clair.
Oui.
Si vous aimez les enfants qui se font tirer dessus au sniper dans les bois, allons-y, comme on dit. Donc voilà, mais je sais pas ce que t'en as pensé, parce que c'est vrai qu'on l'a pris en pleine face à 8h30 du matin.
Ouais, c'est pas évident. Hein.
C'était pas évident, mais bon, personnellement, dans l'ensemble, j'ai aimé ce film, parce que je trouve qu'il a fait un travail énorme avec ce personnage, surtout la prestation de Matt Dillon dans le rôle du serial killer était très convaincante. Et on arrivait vraiment à comprendre le psychisme du gars. Enfin, en tout cas, on était vraiment avec lui, quoi, dans ses meurtres. Et c'est ça qui est très malaisant aussi, mine de rien. Et cet humour qu'il apportait à ce film, qui n'était pas spécialement présent dans ses films précédents, comme Nymphomaniac ou encore Mélancolia, apportait quand même une touche plus légère, plus accessible à son film, de manière générale. Même si ça reste 2h35, et que c'est clair que, de nouveau, on peut faire la remarque de... peut-être passer à la salle de montage un tout petit peu pour 2-3 séquences, mais c'est clair que voilà, c'est ambitieux, c'est parfois un doigt d'honneur à tout ce qu'il a pu faire précédemment, parce que s'il le dit lui-même, en tout cas il met même des passages de ses anciens films, hein.
il s'autocite,
voilà, il s'autocite dans le film, donc c'est assez particulier, mais bon, grosso modo, il justifie un petit peu que c'est pas parce qu'on montre quelqu'un qui est comme ça qu'on le croit et qu'on le pense. Et ça fait référence aux remarques nazies qu'il avait sorties il y a une dizaine d'années, où tout le monde lui a couru après, entre guillemets, alors que lui expliquait qu'il exprimait un avis, que c'était pas, il fallait pas non plus condamner la personne pour son avis. Il fait pareil ici avec ce personnage de Jack. Voilà, oui, excusez-moi, j'ai un peu bougé, ça faisait du bruit. As-tu quelque chose à rajouter sur ce film, Thibaut ?
Mais non, parce que c'est un film assez long à processer, à digérer. Mm-hmm. Il n'est pas... Il n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Alors, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas d'avis à dire que le film est honteux, machin. C'est loin d'être le pire film, ni même le plus trash de Lars von Trier. Mais il y a un côté, il y a quand même beaucoup de violence gratuite. Il y a des trucs très très dérangeants. Hein. Les meurtres des enfants, c'est voilà, c'est pas facile. On va pas se mentir.
Bah c'est clairement la séquence où il y a le moins d'humour, ça c'est sûr.
Ouais. Et il y a aussi encore toute une dimension ésotérique et philosophique à la fin qui est pas facile. Donc voilà, faut encore un petit peu digérer le film, même si ça fait quoi 2 jours maintenant.
Ouais.
Mais dans l'ensemble, j'ai quand même plutôt bien aimé.
Oui, moi aussi. Donc clairement, un petit retour en forme de sa part. Le soir, on a vu Solo Star Wars Story, mais je propose qu'on le garde pour le cinécast de la semaine où il va sortir.
Ouais, c'est la semaine prochaine.
La semaine prochaine, voilà. Donc on va pas en parler tout de suite.
Mais tu as oublié un autre film en compétition avant
vas-y,
ça.
Vas-y.
En guerre,
tout à fait.
Qui est le nouveau drame social de Stéphane Brisé, qui raconte l'univers syndical, une entreprise qui doit fermer alors qu'elle fait des bénéfices.
C'est où ? C'est dans le nord de la France
En France, oui, je sais plus où exactement, peu importe. Et donc c'est vraiment une plongée dans le monde syndical avec les représentants qui vont tout faire pour sauver l'entreprise. Surtout que l'entreprise n'a pas respecté un deal qui avait été fait 2 ans auparavant, c'est-à-dire de ne supprimer aucun emploi dans les 5 années qui suivent. Et ben là, on est 2 ans plus tard et ils doivent supprimer des emplois. Du coup, même fermer l'usine, je pense, carrément. Donc, ça pose de gros soucis. Et on voit vraiment tout le processus. Il y a des négociations. Il faut contacter la boîte, enfin la boîte mère, parce que ce n'est pas une boîte indépendante. Elle fait partie d'un groupe. Donc, il faut négocier avec le groupe. Enfin, essayer de négocier avec le groupe. Il faut avoir les institutions publiques, il faut les syndicats. Enfin voilà, il y a une grosse mise en place qui doit être faite. C'est toute une musique qui doit être mise en place. Et c'est très. Moi j'ai trouvé ça très réussi. On dirait un. Alors j'ai peut-être le caricaturé un petit peu. On dirait un peu un reportage télé en 2 heures, quoi. Mmh. C'est-à-dire. Il y a des. Le film, certains reportages télé te les résument en 2 minutes. Mais ici, le film prend le temps de donner la parole à tout le monde. Et il est très crédible. Parce que ce que Stéphane Brisé fait, c'est qu'il tourne majoritairement avec des acteurs non professionnels. Mmh. Et donc, quand il a besoin d'un avocat, en fait, c'est un avocat qui joue son propre rôle. D'ailleurs, la majorité des comédiens portent leur propre nom dans le film. Enfin, des comédiens. Oui, enfin, ce sont des comédiens non professionnels, mais voilà.
Ouais.
Et le film est toujours porté par Vincent Lindon, qui collabore encore avec Stéphane Brisé. Et leur duo fonctionne à merveille. Vincent Lindon est absolument génial. Et le film est très réussi. Beaucoup ne seront pas sensibles forcément à un xème drame social. Ouais. Mais franchement, Brisé, il fait ça superbement bien.
Tu m'expliquais aussi.
Il faut qu'il continue.
Tu as la chance de voir Vincent Lindon et Stéphane Brisé aujourd'hui. Et tu m'expliquais que justement, ils disaient qu'ils avaient été voir des patrons, ils avaient été voir des gens de différents milieux pour justement essayer de faire un film qui est entre guillemets assez fidèle et pas uniquement biaisé entre guillemets. Allez, ils essayaient le moins possible d'être trop dans le social ou trop dans le justement droite-gauche. Enfin voilà, donc ils ont essayé de faire le truc le plus authentique possible.
Complètement.
Donc ça, c'est à chapeau. Ensuite, on a vu Under the Silver Lake de David Robert Mitchell qui avait fait It Follows avec Andrew Garfield dans le rôle principal. Donc ça, c'est un film aussi qui est très difficile à procéder. Hein. Personnellement, je ne l'ai pas encore digéré à 100%.
Ben moi non plus.
C'est 2h20 où on plonge dans la vie de cet homme qui ne faut rien de sa journée, hein, voilà, on peut le dire, et qui est là dans Los Angeles, qui erre un peu. Et il y a apparemment quelqu'un qui tue des chiens. Mais attention, hein, ça va être compliqué.
Il y a beaucoup de choses, en fait.
Il se passe plein de choses dans ce film.
Je pense que je le reverrai avant de faire quelque chose de...
D'ailleurs, j'y pense. Faut le revoir, ouais. J'y pense, et cet homme qui tue des chiens, en fait, on. Voilà, ça tombe en parler après. Non. Il y a plein de choses.
Tu ne dis rien. Mais là, vraiment, en fait, je repense au film de temps en temps, et c'est compliqué. Je sais vraiment pas trop quoi en penser, et c'est le seul film là pour l'instant. Dans l'ensemble, je pense avoir aimé, mais vraiment réfléchir et analyser le truc, c'est compliqué.
Non, par contre, le truc qu'on peut dire, c'est que c'est une ambiance qui est à la fois moderne, parce qu'on n'est clairement pas dans le passé ou autre, mais il y a ce côté un peu L.A. Noir, ouais, petite musique lounge des années 50 à Los Angeles avec le petit trompette derrière, le petit cigare. Enfin, on est vraiment dans cette atmosphère-là, mais en même temps, il y a des trucs très modernes avec des groupes de musique qui font du rock, il y a des paroles, des trucs comme ça. Enfin, il y a un peu de tout. C'est assez particulier comme film, très, très spécial.
Ouais.
Ensuite, nous avons vu, donc Solo, bah non, En guerre, c'est bon aussi, on a vu Burning.
Exactement.
Hier soir, un film de 2h30. C'est 2h30, oui. Mm-hmm. 2h30 avec Steven Yeun, donc l'acteur qui joue dans Walking Dead.
Oui, et que l'on retrouvera prochainement en interview sur Cinéphilia et Ciné News.
C'est pas Thibaut.
Oui. Demain, ça va être bien.
Steven Yeun, entre autres.
J'ai arrêté Walking Dead après 3 saisons, je crois. Donc,
Oui, tu pourras pas lui parler
de ça. Je vais pas lui parler de Walking Dead.
Non, bah, parle-lui de ce film-ci. Burning, qui est un film de nouveau. Hein, on aurait pu enlever une demi-heure à ça de montage. Vraiment un peu plus. Presque. Puisque ça se base sur une nouvelle, t'expliquais ça hier soir, donc c'est sur une nouvelle qui retrace l'histoire en fait d'un homme qui brûle des... Je crois que c'est des granges dans l'histoire de base, mais dans ce cas-ci, c'est des serres en plastique en Corée, Corée du Sud, hein, pour le coup, on précise. Et donc dans ce cas-ci, c'est un peu la lutte entre deux personnes, donc il y a un triangle amoureux, clairement, où on a notre protagoniste qui est un jeune, entre guillemets, campagnard, qui est amoureux d'une jeune copine d'enfance qui s'est un peu transformée, elle a fait une opération chirurgicale, etc. Elle est devenue une très jolie coréenne. Et il y a un type qui déboule de nulle part, comme ça, avec sa Porsche, qui traîne avec cette fille. Et donc il y a un peu cette lutte aussi des classes, mine de rien, hein, indirectement, entre ce jeune paysan et l'autre de Gangnam, hein, le quartier riche, qui vont un peu se chamailler cette fille. Cette fille disparaît à un moment donné. Et c'est là que le film prend toute autre envergure, hein, parce qu'on on n'est pas juste dans un triangle amoureux, on rentre vraiment maintenant dans un truc, la fille n'est plus là, pourquoi est-ce qu'elle a fréquenté ce mec, qu'est-ce que ce mec a fait avec sa Porsche, justement, le riche, et donc on rentre un peu dans un film de un duel entre les deux, quoi. Il va le suivre, il le regarde, qu'est-ce qu'il fait, voilà, donc c'est un peu mystère et boule de gomme dans la deuxième partie du film, mais la première partie du film c'est... de l'exposition, présentation des personnages, et...
Ouais, ça prend beaucoup son temps. C'est longuet. Et alors, moi j'aime bien le film, mais clairement je trouve que l'introduction est beaucoup trop longue. Et dans l'ensemble, ouais, il y a bien une demi-heure à retirer, ça c'est clair. Après, la mise en scène, la mise en scène, les comédiens, c'est sans faute. J'ai vraiment beaucoup aimé cette proposition que je trouve. Inédite, c'est trop rare des films comme ça racontés de telle manière, et donc en ça c'est génial que celui-là existe. Après, effectivement, vu que c'est tiré d'une nouvelle, ça manque parfois peut-être de consistance. Ils ont peut-être un peu tiré sur la corde, malheureusement, mais bon, voilà.
Terminons cet épisode, je vais lâcher mon GSM, j'en ai ras le cul. Terminons cet épisode par le dernier film qui est. Enfin, le dernier film que tu as vu en tout cas en compétition, hein, qui est Dogman de Matteo Garrone, qui nous avait fait notamment Gomorrah. Si je ne me trompe pas.
Exactement.
Que tu as vu ce matin pour le coup.
Ben, Matteo Garrone, il retrouve un peu ses premières amours, hein, donc c'est les thématiques un peu plus. Je ne vais pas dire mafieuse, mais on est dans quelque chose de plus noir, de plus, plus dramatique, de plus poisseux. Et ici, il est question d'un toiletteur pour chien qui va se retrouver embarqué, qui va être tiraillé dans une sale situation. C'est-à-dire, d'une part, il y aura tous les... Enfin, il y a quelqu'un qui sort de prison et qui revient dans le quartier et qui terrorise un peu tout le monde, mais qui est quand même ami... plus ou moins, enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça une amitié, mais soit, qui est ami avec Marcello, donc c'est le toiletteur pour chien, et d'autre part, les autres amis et commerçants de Marcello. Donc le gars, il est vraiment un peu au milieu, parce que vraiment, le nouveau venu, enfin le revenant, il met le quartier un peu à sac. Et Marcello va se retrouver embarqué dans une spirale infernale, où il sera tiraillé des deux côtés, et puis va arriver un événement qui va chambouler tout le reste, quoi. Et quelle sera l'issue, etc. Ça, voilà, faudra le découvrir dans le film. Mais à nouveau, c'est pas l'issue qui est le plus important, c'est vraiment comment on en arrive là où le personnage arrive à la fin, qui est génial. Et l'acteur qui s'appelle Marcello Fento, je pense, ou Frento, quelque chose comme ça, c'est lui pour moi le candidat le plus sérieux au prix d'interprétation masculin.
Oui, c'est t'en parlais au début de l'émission.
Voilà, Marcello Fronte, pardon.
Est-ce que pour l'instant tu as pu remarquer une palme d'or?
Non.
Ou tu te dis tiens là c'est vraiment la révélation, je pensais pas voir ça à Cannes.
Peut-être à défaut, Koreeda, Leto, quelque chose comme ça. Alors il y a quand même plusieurs films que j'ai ratés en compétition officielle mais que je vais rattraper dans 2 jours. Mais non, une vraie palme d'or non.
De toute façon,
pas vu, je pense.
Voilà, nous sommes pour l'instant donc jeudi fin de journée. Le festival se termine ce samedi, mais on va vous tenir au courant sur le site de Cinéphilia, sur le site également de Ciné News au fur et à mesure les différentes critiques, les interviews qu'on a faites aussi. Comme ça, vous restez un peu up to date avec l'actualité du festival et notre couverture entre guillemets,
ouais.
Parce qu'on aura pas mal de choses à dire. Et puis forcément, quand ces films vont ressortir en salle, on en parlera un petit peu.
Il ne faut pas hésiter à aller checker nos capsules vidéo sur la page Facebook de Cinécast où là on parle des films de manière plus brève. Donc si ce n'est déjà fait, allez-y.
Voilà, parce que c'est pas évident de trouver 1h30 dans la journée pour faire un podcast. Donc voilà, on s'était dit
qu'il fallait absolument le conclure.
On va le conclure. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission spéciale. On se dit du coup à la semaine prochaine pour un Cinécast normal.
Ouais.
À très bientôt.
Où on parlera de Star Wars, entre autres.
Entre autres. Ciao, allez, ciao.
Des bisous.
Bisous.